Vous êtes sur RTL.
18h. RTL Soir, Julien Cellier. Bonsoir Julien.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Bienvenue dans RTL Soir. C'est donc parti pour 2 heures d'infos avec vous et avec l'ensemble de la rédaction. Ce soir à la une, le président du CSA s'exprime sur RTL et nous rappelle les règles. CNews et Éric Zemmour se plaignent. L'émission du polémiste s'arrête. La chaîne se dit contrainte parce que le Conseil supérieur de l'audiovisuel décompte désormais le temps de parole du potentiel prétendant à l'Élysée. Alors, quelles sont exactement les procédures, qui est intégré ou non dans les calculs et pourquoi? Eh bien, Roch-Olivier Maistre sera notre invité dans un quart d'heure. Il dirige donc le CSA et nous expliquera tout. Les autres titres de l'actualité maintenant, à suivre dans votre journal. Marion Calais, bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Un maire enfariné, une élue bousculée et une association dissoute par le ministère de l'Intérieur. RTL à Val-de-Reuil, près de Rouen, ce soir, pour tenter de comprendre les tensions qui agite la ville et la classe politique depuis plusieurs jours. La police des polices n'est-elle plus suffisante? En tout cas, l'Élysée promet ce soir un contrôle indépendant des forces de l'ordre. Décryptage à suivre. Et puis le procès Benalla et les premières explications de l'intéressé devant le tribunal de Paris. Les courses dans le Quintet Plus tout à l'heure à Beaumont-de-Lomagne. Il fallait jouer le 5, le 2, le 10, le 7 et le 14.
Dans un quart d'heure, une première. Un bus totalement autonome, sans chauffeur, au milieu du trafic en région parisienne. La brigade RTL a pu monter à bord. Dans une demi-heure, les dessous de l'actu. On va vous emmener sur les Champs-Élysées où l'Arc de Triomphe est emballé en ce moment, une œuvre posthume et XXL de l'artiste Christo. À suivre aussi, Laissez-vous tenter dernière. Ce soir, un roman coup de cœur signé Léonore de Recondo. À 18h40, on va défaire le monde. 20 minutes pour regarder l'actu autrement avec vous, Cyprien Signy à la bande. Bonsoir.
Bonsoir à tous.
Le programme.
Ce soir, on vous emmène en immersion à l'école de police. Témoignage hallucinant sur la formation de nos policiers. Et puis, on vous parlera également du record de Jean-Michel Blanquer et d'une belle bourde de l'armée de l'air.
À 19h15, on refait le monde du débat autour d'Éric Brunet. Ce soir, on parlera notamment d'Éric Zemmour et d'Anne Hidalgo. Et puis tout au long de l'émission, des points météo très réguliers avec vous, Louis Baudin. Bonsoir.
Bonsoir Julien.
La tendance?
Eh ben, c'est le retour de la pluie. Hein. Ça commence d'ailleurs en ce moment là sur le littoral atlantique. Et demain, ben, c'est une vaste zone nuageuse, pluvieuse, parfois orageuse, qui va traverser toute la France. Pas de jaloux, hein. Nord comme au sud, on aura ces passages nuageux et pluvieux. Quelques éclaircies reviendront à l'arrière. Le soleil résistera un peu plus longtemps près des frontières de l'Est. Mais là aussi arrivera la dégradation. Attention aux pluies parfois assez fortes autour de la région Midi-Pyrénées et du Languedoc. Les températures donc en baisse. Demain après-midi, elles seront entre 21 et 26 degrés quand même dans la moitié nord. 26 à 30 encore dans le sud.
Le détail, bien entendu, juste après le journal. Merci beaucoup, Louis.
RTL Soir.
Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
Avec donc cette commune d'un peu plus de 13 000 habitants qui se retrouve sous le feu des projecteurs.
Val-de-Reuil en Normandie, théâtre de tensions communautaires dont la classe politique s'est emparée jusqu'au ministère de l'Intérieur. Ce matin, Gérald Darmanin, s'appuyant sur ses troubles, a annoncé la dissolution de la Ligue de défense noire africaine qualifiée de raciste et soupçonnée d'être à l'origine d'un envahissement de la mairie de Val-de-Reuil samedi.
Alors, mairie envahie, maire enfarinée, comment en est-on arrivé là? On va essayer de revenir sur ce qu'il s'est passé exactement ces derniers jours. La rédaction RTL s'est mobilisée. Vous vous êtes rendu sur place, Vincent Serrano. En fait, tout est parti il y a quelques jours d'une petite bagarre entre deux enfants.
Oui, dimanche 5 septembre, en fin d'après-midi, dans le quartier de la Dalle, en centre-ville, deux enfants jouent sur la chaussée devant chez eux. Ils se chamaillent, se bousculent au pied des immeubles blancs de 3-4 étages du quartier, comme le font tous les enfants de moins de 10 ans. Sauf que, depuis les fenêtres, les deux mamans, kurdes et franco-sénégalaises, voient la scène et descendent pour s'expliquer. C'est là que ça dégénère. Les deux mères se battent entre elles et les maris s'en mêlent à leur tour, chacun accompagné d'une quinzaine de personnes. Karim est à ce moment-là adossé à un muret juste à côté et voit le père d'origine franco-sénégalaise se faire poursuivre par un groupe.
Il voit que sa femme a se fait limite à moitié dénudée, son enfant il vient de se faire étrangler alors que sa femme elle a voulu discuter tout ça. Et au final, après, il y a encore 15 personnes qui veulent lui rentrer dessus, lui il se défend. Après, c'est parti en bagarre. Ils sont venus avec des scies, des barmines, tout ce qu'ils avaient sur la main. Et même des trottinettes qui ont été lancées de leur côté, qui sont reparties de leur côté. Et au final, et voilà quoi.
Et quand la police intervient, ce père d'origine franco-sénégalaise est arrêté, placé en détention. Sa femme et son enfant sont eux hospitalisés après avoir reçu des coups. Côté kurde, le père est lui aussi hospitalisé. Ce sont, vous le voyez, vraiment deux familles qui se sont affrontées ce soir-là.
Mais le problème, c'est que ça ne s'est pas arrêté là, hein, Vincent.
Non, mardi soir, un peu moins d'un millier de personnes défilent dans le centre-ville en brandissant pour certains des drapeaux du PKK. Ce sont des Kurdes. Et là encore, deux jeunes du quartier entendent certains propos tenus par les manifestants.
Plusieurs insultes, ouais. Ils ont dit « Ah bah les Noirs », ils ont dit « Ils sont où les Noirs ?»« Réchaud, Réchaud, sale Noir, faut les tuer, vengeance. »
Ils sont venus crier chez nous, dans notre ville à nous. Pourtant, ça fait des années qu'on est ici, on est là même avant eux. Et c'est pas pour autant que nous on a crié « Où sont les Kurdes ?» ou « Qu'on a fait notre manifestation ?»
Et en discutant avec plusieurs membres des deux communautés d'ici, c'est vraiment un effet boule de neige. Une action d'une communauté entraîne la réaction de l'autre. Parce que pour les Sénégalais, c'est cette manifestation kurde, ces propos qu'ils n'ont pas acceptés et qui les a poussés en mairie ce samedi après-midi pour voir le maire.
On voulait vraiment être entendu.
Juste, on aimerait bien que justice soit faite, quoi. Que c'est nous, on n'est pas là pour faire la guerre. Nous, vous avez bien vu, on n'est pas parti défiler. Où sont les Kurdes? Où sont les Kurdes? On a demandé quoi? On a dit non au racisme, mais liberté, c'est tout. Liberté. La justice.
Sauf que ce samedi, une quarantaine de personnes qui ne sont pas de la ville, mais essentiellement des membres de la Ligue de défense nord-africaine qui s'introduit avec eux de force jusqu'à la salle où le maire célèbre trois mariages. C'est ce que vous entendez derrière une vidéo relayée sur les réseaux sociaux. Une adjointe tente de les retenir. Elle est légèrement blessée et se voit prescrire 3 jours d'ITT. Le maire, lui, est enfariné.
Enfariné et bousculé, il n'y a pas que moi, excusez-moi. Pour une journée qui doit être exceptionnelle, elle a été exceptionnelle, mais pas dans le sens qu'ils attendaient. Un lieu républicain, une cérémonie républicaine, une élue républicaine, où est la ligne jaune? La ligne jaune avait été franchie.
Et aujourd'hui, quelle est la situation, Vincent?
Climat plus qu'électrique, Julien, me disent les jeunes du quartier des deux communautés. Les deux communautés s'évitent d'ailleurs dans les petites rues pavées du centre-ville. Et la compagnie de CRS envoyée par l'intérieur pour tourner ici dans les rues le soir pour éviter que ça dégénère encore une nouvelle fois, eh bien la présence de cette compagnie de CRS n'améliore pas non plus ce climat de tension.
Enquête signée Vincent Serrano à Val-de-Reuil dans l'heure pour RTL.
RTL, 18h06, on en vient à ce petit séisme provoqué par l'Elysée à la veille de la clôture du Beauvau de la sécurité.
Oui, la concertation lancée il y a 7 mois devait permettre de jouer l'apaisement après les propos polémiques d'Emmanuel Macron sur les violences policières et les contrôles aux faciès, mais l'apaisement est loin d'être acquis au vu des premières annonces, puisqu'Emmanuel Macron annoncera demain un contrôle indépendant des forces de l'ordre, William Galibert.
Oui, en clair, les policiers ne seront plus seuls pour surveiller le travail des autres policiers. L'Élysée promet un contrôle externe, indépendant de l'action des forces de l'ordre. Mais alors, qui s'en chargera? Il pourrait s'agir d'un contrôle notamment effectué par les parlementaires. Est-ce que le chef de l'État fera aussi appel à d'autres personnes, à des cabinets indépendants par exemple? Ça, Emmanuel Macron le dira demain midi.
Est-ce que ça signifie pour Emmanuel Macron que l'IGPN, la police des polices, ne suffit pas?
Alors d'abord, il faut préciser, Julien, que l'IGPN ne va pas pour autant disparaître. Ouais. Mais l'idée là, c'est vraiment de mettre plus de transparence. Emmanuel Macron veut par exemple que tous ses rapports soient rendus publics et que les sanctions soient enfin appliquées à la lettre. Il y a 2 grands objectifs. Écarter les brebis galeuses de la police et tenter de rétablir le lien de confiance entre la police et les Français. Il faut se souvenir qu'Emmanuel Macron, il y a quelques mois, avait reconnu l'existence de violences et de contrôles aux faciès chez les forces de l'ordre. Et alors pour l'instant, les policiers accueillent très froidement ces premières annonces. Pour nous, c'est non, vient d'écrire le syndicat Alternatif Police, qui parle d'un désaveu pour l'ensemble de l'institution policière.
Explication signée William Galibert pour RTL.
L'ouverture du procès d'Alexandre Bédala, notamment pour des violences commises en marge des manifestations du 1er mai. Guillemette Franquet, vous êtes au tribunal de Paris pour RTL, où l'ancien chargé de mission de sécurité de l'Elysée a commencé à se justifier.
Oui, Alexandre Bédala, en costume sombre et cravate bleu marine à points rouges, est tiré à 4 épingles. Et calme. À la barre, l'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron raconte son premier projet, devenir commissaire de police. La présidente évoque son refus face à une perquisition en 2018. Refus aussi de donner le numéro de sa compagne qui avait les clés. Il y avait des camions BFM et CNews en bas de chez moi. Je voulais la mettre à l'abri, souffle Alexandre Bédala. Puis la présidente évoque la disparition de son coffre-fort. Vous ne trouvez pas que ses comportements pour quelqu'un qui a voulu devenir commissaire de police sont inadaptés? Petit à petit se dresse le portrait d'un jeune homme passionné par la sécurité, l'armée mais aussi l'Elysée, avec un premier poste d'adjoint au chef de cabinet qui finit par lui échapper sous François Hollande. Déjà en 2011, Alexandre Bédala a assuré la protection de Martine Aubry. Ce n'était pas difficile, en plus de votre engagement de gendarme réserviste, lui demande la présidente. Et Alexandre Bédala de lui répondre sans ironie. Pour moi, c'est la même chose. La grande différence, c'est la tenue.
Un compte-rendu d'audience signé Guillemette Franquet pour RTL.
Allez, on marque une petite pause sur RTL et dans un instant, le CSA fait plier Éric Zemmour et CNews. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Sellier. Julien Cellier,
RTL Soir.
Et donc, comme promis, la suite de votre journal, 18h11, vous écoutez RTL. Son temps de parole est désormais décompté. Le presque candidat Éric Zemmour n'officiera plus sur la chaîne CNews.
Mais oui, la chaîne et le polémiste l'ont annoncé ce matin, Vincent Derosier.
Oui, et précisons que ce n'est pas une première. Le CSA a déjà imposé la prise en compte du temps de parole pour d'autres candidats, pas encore déclarés officiellement. Ça a notamment été le cas pour Arnaud Montebourg ou Michel Barnier. Alors, Éric Zemmour dénonce la décision du CSA. Ça, bien sûr, tout en reconnaissant que la situation devenait intenable. Dans la classe politique, en revanche, il y a une forme de soulagement. Stéphane Séjourné, très proche d'Emmanuel Macron, a été l'un des premiers à réclamer une réaction du CSA, tout comme le député écolo Mathieu Orphelin.
C'est une décision qui s'imposait. On ne peut pas être à la fois candidat à la présidentielle et avoir une chronique d'une heure sur une chaîne gratuite, débattre et présenter chaque soir son projet politique.
Le problème que certains soulèvent, c'est qu'il n'est pas encore officiellement candidat.
Il a créé un parti politique, une association de financement. Il a commencé la recherche des 500 signatures d'élus. Il prépare sa candidature à la présidentielle.
Et en privé ce matin, juste après l'annonce de Canal+, Marine Le Pen s'est aussi réjouie de cette décision comme soulagée. Maintenant, a-t-elle confié à ses proches, Éric Zemmour va comprendre ce qu'est une vraie campagne politique.
Les explications de Vincent Derosier. Alors, quelles sont exactement les règles du temps de parole? Pourquoi Éric Zemmour et son temps de parole est désormais comptabilisé? On posera la question tout à l'heure à Roch-Olivier Maistre, qui sera notre invité dans quelques minutes. Il dirige le CSA, le président du CSA. C'est ça qui va donc s'exprimer sur RTL et tout nous expliquer.
La politique est un chiffre ce soir, 122 670 comme le nombre d'électeurs inscrits pour participer à la primaire des écologistes. Premier tour entre jeudi et dimanche.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Avec une vedette qui a 63 ans, continue de jouer la provoque.
Happy 40th MTV!
Ça, c'est Madonna qui a ouvert hier les MTV Music Awards en entrant sur cette chanson. Vogue 1990, et Madonna arrivait d'abord dans un long trench coat qu'elle a fini par ouvrir pour dévoiler une tenue de cuir noire serrée dans laquelle elle s'est affichée fièrement sur les réseaux sociaux avec ce message, et il disait que je ne durerai pas. 40 ans plus tard, quasiment, elle est toujours là.
Elle est toujours là. Le comeback de Madonna, c'était la bonne nouvelle du soir. Merci Marion, à tout à l'heure. Le temps, Louis, là les nouvelles sont un peu moins réjouissantes.
Oui. C'est le retour de la pluie sous forme d'instabilité. Demain, ce sont des vagues pluvieuses qui vont traverser toute la France, parfois accompagnées d'orages. Ça arrivera un peu plus tard dans l'Est. Et puis dans l'Ouest, on trouvera quelques éclaircies l'après-midi. Pluie un peu plus intense autour du Languedoc-Roussillon. Puis côté température, ça va commencer à baisser l'après-midi. 21 à 26 degrés quand même dans la moitié nord et 26 à 30 dans le sud.
Merci Louis.
Tous vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur rtl.fr.
Julien Cellier,
RTL Soir.
Allez, 18h14, RTL Soir continue. Vous êtes peut-être en train là de nous écouter en voiture ou dans les transports en commun. Alors, tendez bien l'oreille parce qu'on va vous proposer une expérience inédite. Pour la première fois, un bus autonome, c'est-à-dire sans chauffeur, a roulé ce matin au milieu du trafic en région parisienne. C'est la RATP qui lance ce test grandeur nature à Sucy-Bonneuil dans le Val-de-Marne. Forcément, nous sommes curieux. Nous allons poser trois questions à la brigade RTL. Bonsoir Arnaud Touche.
Bonsoir Julien.
Alors, c'est une exclue RTL. Vous avez pu monter à bord de ce véhicule. Il ressemble à quoi? Il ressemble à un bus normal?
Alors oui, Julien, je vais vous montrer. Fermons donc les portes et partons faire un tour à l'intérieur. C'est un vrai bus de ville, comme vous le connaissez un peu partout en France. 18 places assises, 57 debout. Et franchement, si ce n'était pas marqué dessus, je n'aurais jamais su que c'était un bus autonome, excepté deux petits capteurs sur le côté qui dépassent légèrement, comme l'explique Com Berbin, le directeur de l'innovation à la RATP.
Des capteurs laser qui servent à détecter ce qui se trouve dans l'environnement devant le bus et sur le côté du bus.
Et cela n'a rien à voir avec les petites navettes autonomes qu'on connaît actuellement. Ce bus de ville, il est 100% électrique et forcément beaucoup plus grand.
Et ce bus, il roule tout seul donc?
Oui, le volant tourne tout seul en tout cas, et la vitesse s'ajuste automatiquement lorsqu'il croise des voitures ou des piétons. C'est arrivé ce matin par exemple, un autre bus justement s'est rabattu un peu vite devant nous, et bien le véhicule autonome a ralenti tout seul.
Et en cas de danger, qu'est-ce qui se passe?
Et bien là, il y a toujours un conducteur qui est là et qui peut réagir en cas de besoin et passer en mode manuel. La vitesse, elle reste limitée à 30 km/h et le freinage est encore un peu sec.
Alors ce test, on l'a dit, c'est une première, mais à quand ces bus dans nos villes?
Et bien j'ai posé la question directement à la PDG de la RATP, Catherine Guilloire.
Aujourd'hui, on fait la première deux jours avec des voyageurs qui ont été les personnes qui étaient invitées participer à ce voyage. On est en train de démontrer que c'est faisable et on envisage de monter les étapes supplémentaires pour arriver à mettre de vrais clients dans ce bus dans un an.
D'ici l'automne 2022, donc, ces bus pourraient donc être déployés dans des environnements de plus en plus urbanisés, même des centres-villes, dans plusieurs années cette fois, sur des voies de bus dédiées, à condition de connecter les feux de signalisation et qu'ils puissent se connecter aussi en 4G et bientôt en 5G.
C'est fascinant. Je vois Louis Baudin avec les yeux complètement écarquillés.
Exactement, oui. J'essaie d'imaginer.
Bah oui, c'est fou, le futur, c'est déjà simple. Demain. Merci Arnaud Touche pour cette balade donc à bord d'un bus autonome. On marque une pause et ensuite le président du CSA sur RTL. La chaîne CNews se dit contrainte d'arrêter l'émission d'Éric Zemmour. Son temps de parole est désormais décompté par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Alors, qui exactement est comptabilisé et pourquoi? Comment? Roch-Olivier Maistre va nous rappeler les règles. Il sera notre invité juste après ça sur RTL. A tout de suite.
RTL Soir avec Julien Cellier. Comme Julien Cellier, RTL Soir.
Allez, bonne fin de journée. Vous écoutez RTL et à présent, on va essayer de comprendre les règles des temps de parole pour les prétendants à l'Élysée. Alors, je dis prétendants et pas forcément encore candidats. On va tout vous expliquer. Aujourd'hui, CNews a annoncé l'arrêt de l'émission de télé d'Éric Zemmour. La chaîne se dit contrainte de respecter les règles du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui a décidé la semaine dernière de comptabiliser le temps d'antenne du polémiste. Alors, comment ce temps est-il exactement calculé? Qui est décompté et pourquoi? Ce soir, notre invité sur RTL est Roch-Olivier Maistre, le président justement du CSA. Bonsoir.
Bonsoir.
Expliquez-nous, comment le CSA détermine qui voit son temps de parole décompté ou non?
Alors d'abord, ce qu'il faut rappeler à vos auditeurs, c'est que l'une des premières missions que la loi confie au Conseil supérieur de l'audiovisuel, c'est de veiller justement au respect des temps de parole des personnalités qui participent à notre vie politique nationale. La volonté du législateur, c'était qu'on veille justement au respect du pluralisme des courants de pensée et d'opinion. Et c'est une mission que le Conseil exerce à la fois en période électorale, c'est celle qui est le plus connue des Français, mais il l'exerce aussi en période hors électorale. Oui. Donc tout au long de l'année, on veille avec les médias audiovisuels à ce respect des équilibres des temps de parole. Et donc les médias nous transmettent tous les mois les temps de parole des personnalités politiques qu'ils invitent. Et nous, on veille à cet équilibre de façon trimestrielle quand on est en période hors électorale. J'ajoute, parce que c'est peu connu, que ça vaut pour l'ensemble des personnalités qui concourent à la vie politique nationale, y compris le président de la République. Mmh. Quand le président de la République participe au débat politique national, je parle pas du président régalien, si je puis dire, qui parle des affaires de l'État, mais quand il participe au débat politique national, son temps de parole est également décompté. Et ces temps de parole sont bien évidemment regardés par le CSA pour s'assurer du respect des équilibres par les médias. C'est fait de façon totalement transparente. C'est des chiffres qui sont publiés sur le site du CSA, que je transmets moi-même de façon périodique au président des assemblées nationales, d'une part, au président des groupes parlementaires à l'Assemblée, également aux responsables des formations politiques. Mmh. Et voilà, c'est un simple souci d'équité dans le débat démocratique national.
Mais alors, comment on détermine qui a un rôle actif dans le débat politique, qui doit avoir son temps de parole décompté? Parce qu'on le sait, parfois la nuance entre le polémiste, l'homme politique, elle est parfois ténue.
Alors, la position du CSA, j'ai d'ailleurs eu l'occasion de l'exprimer sans aucune ambiguïté dès le début de cette année, c'est on ne comptabilise bien évidemment pas les journalistes et on ne comptabilise pas les éditorialistes. On comptabilise en priorité, bien évidemment, les personnalités qui participent à la vie politique nationale, donc typiquement, bien évidemment, les élus, les membres des formations politiques, mais tous ceux qui prennent un rôle actif dans la vie politique nationale. C'est une chose d'être éditorialiste, c'est une chose de commenter l'actualité politique, comme le font bien des personnalités, bien de vos confrères, c'en est une autre de rentrer dans une logique de campagne électorale et de s'engager explicitement, même si c'est parfois de façon un peu allusive, dans la vie politique nationale.
Donc quand on commence donc, à être intégré rôle, dans les sondages, à avoir un comité de soutien, à chercher des parrainages d'élus, on devient intégré dans les comptes.
Ça fait partie des faisceaux d'indices, effectivement, qui montrent qu'on est sorti de la catégorie de simple commentateur de la vie politique nationale pour devenir un acteur et un acteur potentiel. Alors j'insiste bien sur le fait que ça vaut hors période électorale, et bien évidemment, ça vaudra a fortiori quand on rentrera en période électorale. Quand on va rentrer en période électorale, le CSA va fixer des règles du jeu particulières. Mmh. On les annoncera d'ailleurs assez prochainement de façon publique.
Donc là, aujourd'hui, on peut avoir son temps de parole décompté sans être officiellement candidat. Alors, c'est le cas d'Éric Zemmour, mais c'est, je crois, le cas d'autres personnalités. Anne Hidalgo, Arnaud Montebourg, Marine Le Pen, avant d'être officiellement candidat à la présidentielle, ont vu leur temps de parole décompté, c'est ça ? Nicolas Hulot, par exemple, a son temps de parole aussi décompté.
Absolument. Arnaud Montebourg, typiquement, il vient tout juste de déclarer sa candidature, mais on a commencé, nous, à le comptabiliser plus tôt avant l'été, parce qu'il revenait dans le débat politique. Anne Hidalgo, typiquement, maintenant elle est déclarée, donc les choses sont simples, et puis elle est une personnalité politique en tant que telle, puisqu'elle détient aussi une fonction exécutive comme maire de Paris, et naturellement comptabilisée.
Mais on compte, par exemple, le temps de parole de Nicolas Hulot, qui n'est pas candidat.
Nicolas Hulot est comptabilisé et suivi régulièrement parce que, ancien ministre, il a participé et il participe de fait par les positions qu'il est amené à prendre sur les débats de société à notre vie politique nationale.
Et donc, si un prétendant à l'Élysée finalement renonce dans les prochains mois, annonce qu'il ne sera pas candidat, est-ce que son temps de parole reste comptabilisé ? Oui ?
J'insiste bien sur le fait qu'actuellement, on est hors période électorale et donc on applique les règles du pluralisme, ce qu'on appelle les règles du pluralisme ordinaire qui valent pour toutes les personnalités politiques. Comme je le disais, y compris le président de la République. Si effectivement une personnalité sort du jeu politique à un moment donné, bien évidemment, à ce moment-là, on la sort du décompte. Le point sur lequel je voudrais quand même insister auprès de vous, c'est que le fait de voir son temps de parole recensé, bien évidemment, n'interdit d'aucune façon à ces personnalités de s'exprimer librement dans les médias. Et d'ailleurs, vos antennes invitent toutes les personnalités politiques qui sont comptabilisées au titre des temps de parole. Les chaînes, radio, télévision, sont totalement libres d'inviter les personnalités de leur choix. Et le Conseil, ça j'insiste vraiment très fortement sur ce point, le Conseil n'intervient jamais dans la programmation d'une chaîne de télévision ou d'une antenne de radio. On n'intervient absolument jamais dans les programmes. On ne peut pas imposer un intervenant, on ne peut pas récuser un intervenant, on n'en a pas la faculté. Notre rôle, c'est de veiller à l'équité du débat démocratique, et c'est ce que le CSA a fait la semaine dernière en prenant la position qu'il a prise.
Et si une chaîne veut garder à l'antenne quelqu'un dont vous êtes en train de décompter le temps de parole pour une émission de télé, on prend le cas là par exemple d'Éric Zemmour sur CNews, comment elle fait pour être en règle? Il faut que tout le monde ait le même temps de parole sur l'antenne,
il faut veiller effectivement aux équilibres des temps de parole, c'est-à-dire que tout le monde soit traité de façon équitable. J'ajoute que dans le cas que vous avez évoqué dans votre introduction, le CSA avait bien insisté sur le fait qu'on ne prenait en compte que les interventions dans le débat politique national. Et on ne prenait pas en compte les autres interventions sur des sujets historiques, de sociétés d'une autre nature.
C'est une précision de taille.
Voilà.
Merci beaucoup, Roch-Olivier Maistre, pour vos explications.
Je vous en prie, merci beaucoup de votre invitation.
Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, merci d'avoir été notre invité ce soir sur RTL, alors que donc CNews a annoncé l'arrêt de l'émission de télé d'Éric Zemmour. On avait besoin d'explications ce soir sur RTL, avant d'entendre Éric Zemmour d'ailleurs demain sur cette même antenne, puisqu'il sera notre invité à 7h40, l'invité d'Alba Ventura. Merci d'avoir été notre invité sur RTL.
Bonne soirée.
Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.fr.
Et l'actualité continue, RTL Soir continue avec dans un instant tout autre chose dans les dessous de l'actu. On va vous emmener
aux Champs-Élysées.
Les Parisiens qui sont passés devant l'Arc de Triomphe ont probablement tiqué ces derniers jours. Le monument est en train d'être emballé. L'art en format monument. On va tout vous expliquer dans les dessous de l'actu dans un instant.
RTL Soir, Julien Cellier.
RTL. Très bonne fin de journée. RTL Soir vous accompagne 18h30.
RTL Soir avec Julien Cellier.
Et c'est l'heure de vous rappeler les grands titres de l'actualité de la soirée. Marion Calèche.
Des hospitalisations et même des décès malgré la vaccination. L'agence du médicament évoque ce soir un nombre important d'échecs du vaccin unidose Janssen contre le Covid. On va y revenir tout à l'heure dans le journal de 19h. Après une étape à Doha, l'arrivée aujourd'hui à l'aéroport de Roissy des 49 Français et leurs proches qui s'étaient retrouvés coincés en Afghanistan. Selon le ministre des Affaires étrangères, quelques dizaines de ressortissants hexagonaux sont encore sur place. Après les podiums, les honneurs. les médaillés olympiques et paralympiques reçus en ce moment à l'Elysée. 187 athlètes à qui seront remis la Légion d'honneur ou l'Ordre national du mérite.
Il y a aussi rendez-vous dans le journal de 19h, c'est dans moins d'une demi-heure. Merci beaucoup Marion, bonne soirée. Le temps maintenant, Louis, pour demain.
On sort de nouveau les parapluies, hein, c'est reparti. Ça commence déjà ce soir près de l'Atlantique. Demain matin, ça sera dans une large moitié ouest. On aura ces passages nuageux, ces averses parfois accompagnées d'orages. En cours d'après-midi, ça arrivera dans l'est, près des frontières de l'est justement, ça sera seulement en fin de journée. Attention à ces fortes pluies près des Cévennes une nouvelle fois, puis les températures, elles repartiront à la baisse, hein, 21 à 26 degrés quand même dans la moitié nord en cours d'après-midi, 26 à 30 degrés dans le sud.
Merci Louis.
RTL Soir,
les dessous de l'actu.
Allez, comme tous les soirs maintenant à cette heure-ci, les dessous de l'actu, on vous emmène dans les coulisses des titres à la une et on va vous emmener ce soir dans les coulisses de l'emballage de l'Arc de Triomphe. Un projet posthume est en cours, projet de l'artiste Christo, et des cordistes sont en train d'envelopper le monument de tissu argenté, de cordes rouges. Bonsoir Monique Younès.
Bonsoir.
Plus que jamais vous êtes nos yeux ce soir. Déjà rappelez-nous, pourquoi Christo a choisi d'emballer l'Arc de Triomphe?
Vous savez, Christo, d'origine hongroise, est arrivé à Paris comme réfugié politique en 1958. Ouais. Il habitait une chambre de bonne rue Quentin-Bochard qui donnait sur l'Arc de Triomphe. Et à force de voir le monument de sa lucarne, il pense en 1962 à l'emballer. Il fait le projet, mais il ne cherche pas à avoir des autorisations parce qu'il se dit que ce monument représente un tel emblème pour les Français que son projet est vain. Et puis les années passent. En 2017, le Centre Pompidou lui propose une rétrospective et le choix de réaliser une œuvre dans la capitale. Christo accepte en disant que la seule œuvre qui l'intéresse serait d'empaqueter l'Arc de Triomphe. Le projet est proposé au ministère de la Culture, puis au président de la République en octobre 2019. Et Emmanuel Macron donne son accord le 20 janvier 2020.
Et donc Christo a eu le temps de tout organiser avant sa mort. C'était le 31 mai 2000.
Ben oui, il avait tout décidé, tout vérifié sur maquette, tout choisi les équipes. 1000 personnes, vous savez, travaillent collectivement pour réaliser le projet entièrement financé par Christo grâce à la vente d'œuvres originales. C'est un budget quand même de 14 millions d'euros. Le tissu recyclable, par exemple, en polypropylène gris bleuté, Christo l'avait choisi pour sa brillance, parce qu'il permet la réflexion de la lumière changeante selon l'heure du jour, et aussi parce que c'est un clin d'œil au toit de Paris.
Bon, on a du mal à voir à quoi ça va ressembler au final. Pourquoi il y a aujourd'hui 3000 mètres carrés de cordes rouges qui s'apprêtent à envelopper l'Arc de Triomphe?
Vous savez, ils servent à mettre en relief la structure du monument. Christo avait l'habitude de dire que ses œuvres ne servaient à rien, qu'elles permettaient juste, oui, de vivre une expérience visuelle et sensorielle, de changer le regard sur les objets familiers qu'on ne regarde plus, quoi, à force de les voir. Et on verra certainement l'Arc de Triomphe autrement, du 18 septembre au 3 octobre, le temps que dure l'installation éphémère de Christo.
Au 18 septembre, donc ça approche là, tout sera emballé, donc brillant et reflètera
rouge,
la lumière.
Rouge merveilleux.
Ce sera merveilleux, super. L'emballage, on peut le dire comme ça, voilà. Hein, de l'Arc de Triomphe par Christo, emballage posthume. Donc, on vous a emmené dans les dessous, en tout cas, de cette actualité artistique qui a sans doute étonné plus d'un Parisien ces dernières heures. Merci beaucoup, Monique.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu.
Et RTL Soir s'occupe de vous, 18h34.
Laissez-vous tenter, dernière.
Allez, place maintenant à Laissez-vous tenter dernière. Tous les soirs, on vous donne des idées pour votre soirée, les bons conseils, les bonnes astuces de la bande de LVT. Et alors ce soir, un bouquin. Bonsoir Bernard Lehu.
Bonsoir.
Parmi vos coups de cœur de la rentrée, il y a le nouveau roman de Léonore de Recondo, lauréate du Grand Prix RTL Lire en 2015, pour son livre Amour.
Oui, alors celui-ci s'appelle Revenir à toi, une partition tout en finesse, en émotion, autour des retrouvailles d'une fille et d'une mère, Magdalena. Est une comédienne à la carrière couronnée de succès, forte sur les planches, mais femme fragile hors de la scène, marquée par un terrible traumatisme. Sa mère l'a abandonnée et a disparu depuis 30 ans.
Mais surtout, elle est partie sans raison. Elle revient du collège et sa mère n'est plus là. Et ses grands-parents et son père lui disent qu'elle est partie se reposer sans donner plus d'explications. Elle va en chercher un temps, puis à un certain moment, elle va laisser tomber et elle va couper les ponts avec la famille. Elle va se créer une nouvelle famille qui est celle du théâtre.
Jusqu'au jour où Magdalena reçoit un message.
On a retrouvé trouver ta mère. Elle part la rejoindre. Dans quel état la retrouvera-t-elle? Se reconnaîtront-elles? Le premier contact est désastreux. Il faudra beaucoup de patience, d'amour à Magdalena pour l'apprivoiser. Et surtout apprendre enfin pourquoi 30 ans plus tôt sa mère l'a abandonnée. Derrière la fuite de cette mère se cache bien sûr un secret tragique, trop lourd à porter.
Quelque chose qui, elle, l'a empêchée de vivre, enfin, qui vraiment arrête sa vie. Elle est en vie, mais elle attend de mourir. Enfin, elle se sent tellement coupable d'être là que sa vie s'arrête. Et étrangement, comme le font parfois les parents, à tort, au lieu de réussir à s'en ouvrir à sa fille et à son entourage, elle va penser que ce sera moins lourd pour eux de ne pas savoir. Il n'y a rien de pire, évidemment, que cet énorme silence. Mais finalement, Magdalena se rendra compte qu'à travers beaucoup de personnages qu'elle aura incarnés, elle aura frôlé, en tout cas intuitivement, ce secret, et que les choses se transmettent au-delà des mots, surtout des histoires comme ça.
Et oui, la transmission, malgré le silence, les non-dits, l'absence, en retrouvant sa mère et en découvrant son passé, la belle héroïne de Léonore de Recondo se réconciliera aussi avec elle-même. De ce livre douloureux et si apaisant à la fois, émane un charme singulier qui en fait l'un des joyaux de la rentrée. Revenir à toi est publié chez Grasset.
Et c'est donc l'un de vos coups de cœur de la rentrée. Merci beaucoup Bernard. Nous étions sur les planches en quelque sorte à l'instant avec Magdalena, l'héroïne de ce roman. On y restera demain matin.
Et oui.
Dans Laissez-vous tenter, la quotidienne, 9h-9h30 tous les matins. On partira au théâtre pour un partenariat RTL. La pièce Qu'est-il arrivé à Bette Davis et John Crawford avec Amanda Lear et Michel Faux. Évidemment, vous les avez rencontrés. On se retrouve demain à 9h.
Laissez-vous tenter, dernière.
Et la suite, là, maintenant, dans RTL Soir, c'est On défait le monde. 20 minutes pour apprendre plein de choses. L'actu sous un œil inattendu avec Pour vous servir, Cyprien Sini, Céline Landreau, Laurent Tessier, Arthur Asquin.
Bonsoir.
Dans un instant, notamment, cette question, est-ce que nos policiers sont suffisamment formés? Nous nous sommes interrogés à la veille de la clôture du Beauvau de la sécurité et vous allez entendre un témoignage plutôt édifiant juste après ça. À tout de suite.
On défait le monde, c'est dans un instant sur RTL.